Voyage au bout de la mémoire, une émission hebdomadaire de Qasmi Mhend, réalisée par Zubir Ketani.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Après avoir fait, et pour certains d'entre vous, refait la connaissance la semaine dernière avec le grand philosophe et penseur musulman Al-Ghazali, c'est son principal contradicteur, lui aussi philosophe, rationaliste et penseur, que nous vous présenterons aujourd'hui. Il s'agit d'Ibn Rushd.
Mast nazron se Allah bachaye, mast nazron se Allah.
curieuse place, en effet, que celle qu'occupe le philosophe Ibn Rushd, appelé en Europe Averroès dans l'histoire de la pensée islamique et humaine. Son expérience andalouse, son savoir encyclopédique, son appartenance à la culture arabe islamique en ont fait le grand interprète de son temps. Il a su en même temps faire de ses spécificités les bases d'une réflexion universelle qui a duré longtemps et qui est loin d'avoir été épuisée. Le Coran, le fiqh et les sciences les plus enracinées dans la culture arabo-islamique de l'époque ont fait l'objet de la part d'Ibn Rushd de contributions originales, fécondes et essentielles. Sa connaissance approfondie et unique de la pensée antique grecque, alexandrine, latine, syriaque et persane l'a conduit à une maîtrise quasi totale de la pensée humaine de l'époque. L'esprit d'analyse s'appuie chez Ibn Rushd fortement et utilement sur son corollaire, l'esprit de synthèse. En sorte que le passage de la culture andalouse spécifique à l'universalité de la pensée se fait chez lui avec une telle aisance et un tel bonheur que l'on reste confondu de constater comment un savoir encyclopédique de cette ampleur ait pu donner chez lui une synthèse aussi large. Et pourtant, ou peut-être à cause de cela, il n'a pas échappé à l'oppression intellectuelle et physique qui, dans son propre milieu, a fait tant de mal, tant de dégâts. Persécuté, discrédité, combattu, il le fut avant et après sa mort. Mais l'ampleur de la hargne dont il fut si souvent l'objet est à la mesure. Et pourtant, ou peut-être à cause de cela, il n'a pas échappé à l'oppression intellectuelle et physique qui, dans son propre milieu, a fait tant de mal, tant de dégâts. Persécuté, discrédité, combattu, il le fut avant et après sa mort. Mais l'ampleur de la hargne dont il fut si souvent l'objet est à la mesure de l'ampleur de son génie. Ibn Rushd a rayonné sur Dar al-Islam, où son message n'a pas été tout à fait inutile. Il a rayonné en Occident, où il fut une source profonde de méditation et de réflexion d'un Occident qui venait de sortir de sa torpeur séculaire. Il aura marqué le départ d'une véritable renaissance intellectuelle universelle. Pour les uns et pour les autres, il aura été celui qui a fait définitivement peut-être, d'une façon durable à tout le moins, octroyer une place légitime et royale à la raison pure dans le devenir de l'homme. Ibn Rushd a su dire mieux que quiconque que la raison, égale de la révélation, peut conduire l'homme de façon parallèle à l'identification du vrai, du bien et du beau. Sa pensée constitue en tout cas un instrument unique pour se guider dans les pénombres de l'histoire et, malgré ses ambiguïtés, dans celles plus complexes de la destinée humaine. Aussi, Ibn Rushd demeure-t-il, encore de nos jours, un guide incomparable au moment où tant de forces obscurantistes ici, déstructurantes là, veulent mettre fin au règne de la raison. Honorer Ibn Rushd n'est pas un simple acte de souvenir ou un geste de piété. Il n'a peut-être jamais été aussi actuel que de nos jours. Nous n'avons en tout cas jamais eu besoin de lui autant que maintenant, aujourd'hui. Abul-Walid Muhammad ibn Rushd de Cordoue est né en 1126, année supposée de sa naissance à Cordoue en Andalousie. Il s'est éteint le 10 décembre 1198 à Marrakech, la capitale almohade de l'époque. Latinisé en Averroès de son nom complet, donc Abul-Walid Muhammad ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Ahmed, Ibn Rushd est à la fois un philosophe, un théologien islamique, un juriste, un mathématicien et un médecin arabe du XIIe siècle. l'esprit d'ouverture et la modernité d'Ibn Rushd déplaisent aux autorités musulmanes de l'époque qui l'exilent comme hérétique et ordonnent que ses livres soient brûlés. Il demeura profondément méconnu jusqu'au XIIIe siècle qui commence 2 ans après sa mort, où son importance fut cependant minimisée. Ce n'est qu'actuellement que les historiens de la philosophie reconnaissent son importance et son apport au mouvement philosophique moderne. Il commenta en entier les œuvres d'Aristote. L'ouverture d'esprit et la modernité fondamentale d'Ibn Rushd déplaisent aux autorités de l'époque qui l'exilent comme hérétique et ordonnent que ses livres soient brûlés. Ibn Rushd demeura profondément méconnu jusqu'au XIIIe siècle qui commence 2 ans après sa mort, où son importance fut cependant minimisée. Ce n'est qu'à l'époque contemporaine que les historiens de la philosophie reconnaissent l'apport primordial du travail abattu par Ibn Rushd. Il commenta, entre autres, toutes les œuvres d'Aristote, aussi le nommant le commentateur. Issu d'une grande famille de Qadi Malikites, Ibn Rushd cultiva la médecine qu'il avait étudiée sous Avenzoar et fut médecin de la cour des Almohades à Marrakech au Maroc. Mais il s'attacha plutôt à la théorie qu'à la pratique. Il eut commencé en religion des sentiments très hardis et fut quelque temps inquiété pour ce motif. Dans sa philosophie, il allia aux doctrines d'Aristote celles des Alexandrins sur l'émanation et enseigna qu'il existe une intelligence universelle à laquelle tous les hommes participent et que cette intelligence est immortelle, mais que les âmes particulières sont périssables. Par l'intermédiaire d'Ibn Rushd, fondateur du rationalisme musulman, c'est tout le mouvement du transfert des études, de la longue et lente appropriation de la philosophie gréco-arabe par l'Europe qui s'est accompli. Une histoire multiséculaire, celle de la transmission et du renouvellement de la philosophie et de la science des maîtres grecs, commencée au IXe siècle dans la Bagdad des califes abbassides. Ce mouvement fut poursuivi au XIIe siècle dans la Cordoue des Almohades, puis continué de nouveau dans les pays de la chrétienté dans et hors des universités des XIVe, XVe et XVIe siècles, sans nier toutefois le rôle de Byzance dans la transmission de l'héritage grec. On pense qu'Aristote ne fut connu en Europe que par des traductions latines faites sur la traduction arabe d'Ibn Rushd, ce qui ne l'empêche pas d'être représenté en statue sur le portail de la cathédrale de Chartres au XIIe siècle. Les commentaires d'Ibn Rushd jouissaient d'une autorité presque égale à celle du maître. Sa doctrine, combattue par saint Thomas d'Aquin, fut condamnée en 1240 par l'Université de Paris et en 1512 par le 5e Concile du Latran. Ibn Rushd ne s'accordait pas toujours dans ses commentaires avec Alexandre d'Aphrodisie, ce qui divisa toute l'école en 2 sectes, celle des Averroïstes et celle des Alexandristes. L'extraordinaire et vaste culture d'Ibn Rushd va lui permettre de donner un statut et un rôle très précis à la philosophie aux côtés de la religion. Son point de vue extrêmement élaboré et profondément aristotélicien va constituer un chef-d'œuvre de cohérence. Philosophe, médecin, astronome, Ibn Rushd est aussi qadi, c'est-à-dire homme de loi, juge. Et c'est sur le terrain juridique que le qadi de Séville va porter la première offensive contre les détracteurs de la philosophie. Le chef de file de ces derniers ayant vécu un siècle plus tôt et à l'autre extrémité du monde musulman, c'est à El-Ghazali qu'Ibn Rushd va pourtant répondre. L'ouvrage d'El-Ghazali, le Tahafut al-Falasifa, incohérence des philosophes, est comme une référence pour le mysticisme musulman et précisément celle des Ash'arites qui sévissent en Andalousie à l'époque d'Ibn Rushd. Avec son livre Kitab Fasl al-Maqal, livre du discours décisif, Ibn Rushd répond d'une manière totalement nouvelle à un très ancien problème que l'on retrouve dans le sous-titre de l'ouvrage, celui de la connexion entre la révélation et la philosophie. Expérience inédite, la réponse est placée sur le terrain juridique, celui de la science de la loi musulmane. Ibn Rushd ancre la philosophie dans la réalité sociale. Il s'agit de fonder en droit l'existence du philosophe dans la cité musulmane, ce qui aboutit à cet événement singulier dans l'histoire. La philosophie se trouve ainsi légitimée aussi bien aux yeux du droit de la société qu'à ceux de la loi religieuse. Ainsi, dans sa démonstration, Ibn Rushd constate que le Coran s'adresse à tous les musulmans, aussi bien de faibles que de hautes cultures. Le caractère universel de la révélation ne saurait précisément être universel s'il ne s'adressait pas à eux selon leur niveau de culture. Il y a le sens premier, simple et imagé pour le commun des mortels, et un discours plus soutenu. Il arrive qu'une contradiction apparaisse entre ces deux types d'énoncés, et c'est précisément là que doit intervenir la philosophie. Le philosophe, par le raisonnement, doit déceler le sens profond caché du texte. Ibn Rushd va ainsi pouvoir donner à la philosophie dans une fatwa son caractère obligatoire comme le veut la loi musulmane. Ne pas éclairer le texte coranique par une réflexion philosophique serait nuire à la foi du fidèle, soutient avec force argument le philosophe Ibn Rushd. Dans le Tahafut al-Tahafut, incohérence de l'incohérence, l'ouvrage d'El-Ghazali est critiqué point par point. Les propos sont sanctionnés par une fatwa qui les caractérise comme blâmables et la philosophie d'Aristote restaurée dans sa plus pure version. Ibn Rushd a toujours mis en avant le fait de comparer le monde où il vivait et la religion qu'il devait respecter pour être en accord avec l'importance de l'islam durant son époque. Ibn Rushd est peut-être le philosophe qui a le mieux saisi cette philosophie. Et il est d'ailleurs connu à son époque et pour la postérité comme le grand commentateur des textes aristotéliciens. Son livre « Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid » fait référence en matière de jurisprudence comparée. Il y cite et discute les avis des différents madhhab écoles en matière de fiqh, jurisprudence islamique. Les commentaires d'Ibn Rushd de l'œuvre d'Aristote ont été traduits en latin vers 1230 et en hébreu et eurent une influence majeure sur les penseurs du Moyen-Âge, tant dans l'Andalousie musulmane que dans toute l'Europe. Réussissant à concilier la philosophie aristotélicienne et la foi musulmane, il a fini par devenir un grand penseur du monde islamique et contribuer à la diffusion des cultures grecques et arabes dans le monde occidental. Notre monde d'aujourd'hui en pleine recomposition, mis à mal par les turbulences de ce début de troisième millénaire, et désarçonné par l'émergence de théoriciens du chaos programmé, se doit de faire un peu plus écho à la voix de ce grand intellectuel andalou, symbole indéniable de l'esprit d'ouverture, du savoir, de la foi tranquille et du courage que fut Ibn Rushd. Pour le monde arabo-musulman, Ibn Rushd a été ce grand philosophe qui tenta de concilier la foi et la raison à travers son livre maître, le Traité décisif, ouvrage qui lui a permis d'offrir une alternative sage aux dérives de son temps, qui sont aussi celles du nôtre. Ibn Rushd, surnommé avec beaucoup de respect Averroès en Europe et en Occident, a été un médiateur entre les deux rives. Il a été un passeur d'idées et d'interrogations essentielles qui a notamment introduit la pensée d'Aristote en Europe. Il a favorisé la promotion de la civilisation et de la pensée islamique plus que n'importe quel autre auteur, peut-être. À mercredi prochain.
هكذا تسامح فيا وتوضع الله سغالي.